Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Cette semaine, un petit podcast de l'actualité, de tout ce qui s'est passé ces 7 derniers jours. Avec moi, nous avons Julien.
Bonjour, bonjour.
Nous avons Carole.
Coucou.
Et nous avons Johnny One.
Bonjour.
Rapide sommaire de l'émission, on va faire évidemment les wins et les fails de la semaine. Ensuite, on fera un petit point Nintendo, puisque Nintendo a une actualité très chargée avant l'arrivée de la Switch. On fera aussi notre point Trump, parce que mine de rien, Donald Trump aussi est un peu dans l'actualité jeux vidéo, voire
même,
beaucoup.
Il est même ici.
Il est partout,
il est partout.
Son
ombre
plane. Et après, nous reviendrons sur trois jeux qui ont fait l'événement cette semaine. Il s'agit de Nioh, dont la sortie est imminente. Johnny One a pu le tester, il a rendu son verdict et on vous en parle tout à l'heure. On va parler aussi d'Horizon, puisque Julien a eu la chance de se rendre chez Guerilla pour pouvoir l'essayer. Pareil, on vous en parle juste après. En grande longueur, 4 heures de jeu, c'est ça?
Ouais, 4 bonnes heures de jeu, plusieurs moments de l'histoire, et je vous en parle tout de suite, enfin dans quelques instants.
Ensuite, on reviendra sur la bêta de Ghost Recon Wildlands pour savoir bien si Ubi a tout simplement réussi encore une fois à nous bluffer avec sa formule habituelle, ou si ça commence un peu à s'essouffler. Carole nous dira ça tout à l'heure. Alors yes. On va commencer, comme je le disais, avec le win de la semaine, le vainqueur de la semaine. Le vainqueur de la semaine, Johnny One, c'est
Overwatch.
C'est Overwatch.
Overwatch, 25 millions de joueurs dans le monde.
25 millions de joueurs dans le monde.
Hallucinant.
C'est énorme.
Ah ouais, sorti fou, 24 mai 2016 sur PS4, Xbox One et PC. Et là, aujourd'hui, Blizzard, ils arrivent comme ça, ils disent hop, 25 millions. Et on doit les croire en plus. Parce que moi, j'imagine que c'est pas possible.
Énorme, ouais. Bah, 25 millions de ventes, ouais, c'est fou.
En 8 mois.
Ouais. Ah,
c'est vraiment fou, ouais. beaucoup.
Oui, parce que c'est pas vieux.
Non.
Ah non, ça a moins d'un an.
Un ordre d'idée, un Final Fantasy 7, par exemple, qui est un gros jeu, ouais. etc. à l'époque, 11 millions de ventes.
Ouais.
C'est plus de deux fois moins. Il faut vraiment aller chercher du côté de Call of Duty à la belle heure, à la grandeur de Call of Duty.
GTA au début.
GTA,
voilà. FIFA,
etc.,
Call of.
Pour atteindre ce genre de chiffres dans ce court laps de temps. Parce que Minecraft fait beaucoup plus, GTA 5 fait beaucoup plus, etc. Mais c'est sur des années. Là, c'est en 8 mois.
Là, c'est le, c'est le succès éclair. Quoi. Mais c'est la force de Blizzard, j'ai l'impression.
Mais Blizzard, il peut faire, peut faire n'importe quoi. Il pourrait même faire un jeu Winnie l'ourson qu'on l'achèterait tous de toute manière.
Bah oui, toi, t'as adoré en plus.
Ah, Overwatch. Ah, moi, j'y joue, mais tous les jours. Alors, je sais pas pourquoi.
Écoute,
vous savez très bien que Carole a mis cette légende sur moi, comme quoi j'avais joué à Overwatch. Alors, du coup, on s'en amuse.
Voilà.
Mais c'est toujours pas le cas. J'ai toujours pas joué. Pourtant, je devrais peut-être m'y mettre parce que ça a l'air d'être un sacré phénomène.
Ah, bah oui. Envie,
ouais, non, mais c'est un grand jeu, hein. Il a été primé à de nombreuses reprises. Il a eu d'ailleurs le Gameblog Awards du meilleur jeu multijoueur.
Côté lecteur et côté rédac.
Eh bien,
côté
il me semble que oui. Que ouais. Non, rédac aussi, il me semble.
Ouais. C'est Rudy qui avait eu l'occasion d'y jouer, il ne pouvait plus lâcher.
Mais il l'a poncé, il a mis une extrêmement bonne note. Enfin, je veux dire, son succès est mérité. Mais
voilà.
Il est phénoménal.
Ouais. 25 millions, c'est pas mal du tout, mais 25 millions. C'est pas vraiment ce qui attend le fail de la semaine, parce qu'on n'est pas vraiment à ce niveau-là.
25 millions de rires.
Oui, 25 millions de lol.
Ouais, c'est ça.
Et pourquoi qu'est-ce que c'est cette semaine-là?
Eh bien,
mon
petit bon plume, ouais. Johnny One et Carole, dans la grande magie de la production audiovisuelle, parfois il y a des petits couacs. Et en l'occurrence,
des petits. Non, 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 là pas des petits. Là, des gros couacs.
Ah bah là, c'est
rigolo. Là, c'est un énorme couac.
Nos amis portugais de chez Nintendo.
C'est un quackshot même.
Oh, c'est beau. Nintendo Portugal a diffusé, comme à peu près toutes les filiales mondiales de Nintendo, un trailer de la Switch où on voit tout le monde en train de gesticuler avec les Joy-Con, avec faire semblant de mimer des bouteilles de champagne et machin, avec des images dans les écrans. C'est tout ça est bien logique. Et vous le savez, en fait, quand la plupart du temps, pour filmer un écran, en fait, il y a des reflets sur l'image, etc. C'est pas beau. Donc si vous voulez faire une belle pub, en fait, après en post-production, vous rajoutez les images dans les écrans. Et en plus, ça aide tout simplement pour les acteurs, qui pour pas qu'il y ait de leak, de spoil, les mecs, en fait, il n'y a rien dans leurs écrans. Quand ils savent pas à quoi ils jouent, ils souriez, faites machin, et puis après, en post-production, tu mets les images. Sauf que Nintendo Portugal a oublié de le faire à trois moments dans cette vidéo, et donc on voit le menu debug de la console s'inviter dans la pub, mais comme ça, hein, genre pas certaines fois assez rapidement, mais d'autres fois, t'as le temps, hein, une bonne seconde et demie. Je veux dire, en fait, ils ont diffusé, probablement, la version non post-produite, ou en tout cas pas def. Et puis, ils ont trouvé ça cool. Enfin, ils se sont
ils l'ont balancé.
Voilà, on regarde pas. Alors, c'est soit Joel Stagiaire, qui n'existe plus, hein, actuellement, il est mort. Soit un employé moins stagiaire, et lui, il est encore plus mort. Ça fait un petit hype. Et à la fois, bon, C'est rigolo aussi. Ça nous permet, si vous êtes premium, vous pouvez le voir, et si vous n'êtes pas premium, vous avez la news sur Gameblog, de voir un peu les menus debug de la console, avec les différents points. Il y a quelques mentions à la NX parfois. Voilà, bon, le menu n'est pas très sexy, hein, mais enfin, les menus debug des consoles sont rarement sexy.
En général, oui, voilà. C'est pas fait pour être vu, quoi.
En tout cas, c'est assez rare, quand même.
Oui. De ce genre de quoi que c'est... Ouais.
Ah,
surtout
Nintendo.
De la part de Nintendo,
c'est ça.
Nintendo mais qui sont plutôt contrôle fric.
À la fois, oui, c'est clair. À la fois.
Même avec le reflet et tout.
Oui, mais c'est pas grave. Enfin, le reflet, le mec, il s'en fout d'être
le mec dans la caméra.
Oui, mais il s'en fout puisqu'il sait qu'il va être.
Mais c'est vrai que c'est pas très joli. Esthétiquement, c'est pas très joli. Alors, si en plus dessus, tu mets des erreurs, etc. Mais c'est marrant, quoi.
Ça permet de voir. Ça permet de voir que aussi l'erreur est humaine. Après tout, c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, je pense que pour les personnes qui ont fait ça, c'est. Quand on voit les restrictions que nous avons, nous journalistes, quand on doit filmer des interviews de personnalités de Nintendo et machin, de comment il faut filmer et bidule.
Surtout les Japonais.
Et ben, je pense que pour les employés même de Nintendo, ça doit barder.
À un mois de la Switch,
au Portugal,
se faire virer comme ça,
c'est
moche. Hein. Ouais. C'est très très moche. Ça nous permet de faire un pont, on va dire une transition vers le premier gros point de cette semaine, c'est le point Nintendo. Puisque vous le savez, cette semaine, Nintendo a fait beaucoup de choses, encore une fois. Première chose, c'est l'enterrement pur et simple de la Switch au Japon, ça y est.
De la Wii U, pardon.
Stop,
j'ai jamais dit une chose pareille. On l'a refait, voilà. C'est donc l'enterrement de la Wii U au Japon, ça y est. La Super Nintendo, elle va revenir, t'inquiète, en version mini.
Même la NES est revenue.
C'était pas la Dreamcast qu'ils ont arrêté, non ?
Ils ont arrêté la Dreamcast ?
Ah bon ?
Non. Tu peux pas dire une chose pareille.
Jamais.
Elle existera toujours dans nos cœurs. Donc fin de la production de la Wii U au Japon. C'est toujours pas confirmé pour l'instant pour les États-Unis et l'Europe. Mais voilà.
Sans une pointe de sarcasme,
c'est
cher.
Terminé.
Bah, tu sais, à un moment quand le malade est vraiment trop malade, il faut l'aider, quoi.
Enfin, c'est vrai. C'est vrai.
Alors en France, c'est pas légal, mais dans d'autres pays, l'euthanasie.
Bah non, mais c'est exactement
mais il
est légalisé dans certains pays.
Il fallait effectivement tourner la page. Après, il y a encore des gens, je pense, qui vont garder leur Wii U, ne serait-ce que pour Zelda. Hein. Pas tout le monde va se jeter ou ne pourra se jeter.
Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise machine de dire ça. Hein.
Ah,
ça veut juste dire que ça a pas marché
tout
et qu'à un moment, faut arrêter les frais et qu'il y a plus de jeux qui sont prévus dessus. Quoi.
Et qu'il faut préparer la Switch.
Zelda,
et dire voilà.
Nintendo.
Justement, j'ai évoqué la Dreamcast tout à l'heure. Elle va peut-être avoir un destin à la Dreamcast, justement. Cette console.
Peut-être
d'ici
que dans 10 ans, on dira
années,
putain,
j'ai gardé
la mienne, elle vaut une blinde.
Dit, hein, je la garde, ma Wii U. Et
moi
puis
aussi.
Bon, elle a encore, peut-être encore, voilà, chez certaines personnes, ce temps avec Zelda. Puis
peut-être.
Après,
moi j'ai toujours Wii Karaoke U qui est prêt à être sorti à n'importe quel moment, à être dégainé comme ça.
Mais c'était marrant, on avait fait une soirée d'ailleurs.
Ouais,
voilà.
C'est génial, Wii Karaoke.
C'est sympa. Bah oui, mais c'est le genre de jeu, c'est comme One to Switch. One to Switch. Qui, à mon avis, tu le ressortiras, enfin tu le sortiras
si
une fois ou
deux. Soirées, c'est déjà
comme l'appareil à raclette.
Ouais.
Exactement ça.
Bah nous on le sort plus souvent.
Nous on le sort souvent, nous. Enfin bref.
C'est vrai qu'on dirait que tu le sors. Pardon. On dirait que tu le sors.
J'ai un tout petit peu maigri.
J'aurais
apprécié plus que tu le remarques. Mais non, j'ai ma
jette
sortie.
C'était une blague.
C'est pas encore au top, mais c'est sur la. Un petit peu de baisse.
Mais vous trouvez pas que c'est triste quand on enterre une console ?
Si.
Toujours. Surtout
une console
un peu prématurément.
Finalement, elle a pas eu une vie très.
Elle a eu des super jeux, on en parle à chaque fois qu'on en discute. Elle a eu des super jeux, mais c'est
beaucoup,
pas suffisant.
Mais voilà.
Mais ils ont peut-être une seconde jeunesse sur Switch, puisqu'il y a déjà Mario Kart 8 qui aura droit à sa version de luxe. Peut-être que d'autres jeux comme ça vont faire le chemin.
Des remasterisations à jouer.
Ah oui, c'est sûr.
Chronicle X, par exemple,
un Wonderful 101 qui serait refait.
Ocarina of Time.
Voilà, par exemple.
Alors moi j'adorerais sur Switch qui me sorte l'Ocarina of Time 3DS là, et la
Majora's
Mask 3DS, mais sur Switch quoi.
Ça serait génial.
Comme ça je pourrais jouer sur ma télé.
Ça viendra.
Et tu pourrais jouer surtout partout où tu veux.
Bah voilà,
dans l'avion et tout. Les gens souriront.
Oui, car rappelons le concept de la Switch.
Ouais. C'était aussi cette semaine le temps des bilans financiers, ce qui nous a permis de savoir que la 3DS par exemple. Et ben elle marche plutôt bien. Nintendo a aussi confessé qu'il n'abandonnait pas du tout sa console portable, ce qui fait que pour nous, au niveau du message, moi qui considère toujours que la Switch est une console portable.
Mais non. Souvenez-vous ce que je vous ai dit et rappelez-vous-en le jour où ils la dégaineront. Évidemment que le marketing, je dis pas la réalité ou la perception, je dis le marketing.
Pas au Japon. Au Japon, ils ont tendance à plus dire que c'est portable. Hein.
Ah non, bah Kizushima, il l'a dit. Ouais, c'est Big Boss, il dit c'est une console.
Quand ils font les pubs visuelles,
ils disent transportable.
Tu vois plus la partie transportable que la partie salon.
Mais c'est pour montrer le concept parce que c'est une console que tu peux transporter.
Le choc, c'est de te dire,
c'est le
tu la prends, tu la sors de ta télé. Donc il faut bien montrer qu'il y a ce mouvement-là. Mais ils le vendent, ils le marketent comme une console de salon. Pourquoi ? Une fois de plus, et tout va dans ce sens-là, je trouve. Parce que si ça prend pas, ils pourront très bien te dire, on sort une console portable. Alors qu'ils pourront pas sortir 2 ans après une autre console portable. Tu vois, genre, c'est un aveu d'échec par rapport à la Wii U qui a déjà été un échec. Au niveau du marché, les investisseurs, ils réagiront pas du tout de la même manière. Donc en gros, là, ils se laissent totalement la porte ouverte de pouvoir te sortir une console portable si ça prend pas assez. Et c'est très judicieux, je trouve, en termes de marketing.
Bon, en tout cas, ça a pris pour l'année dernière, puisque c'est 6 millions, plus de 6,5 millions d'exemplaires quand même qui ont été vendus la 3DS pour une console qui, elle aussi, visiblement, devrait être considérée comme étant en fin de vie.
Bah,
c'est pas mal.
Oui, mais c'est quand même moins que ce que Sony a vendu de PS4 à Noël.
Très certainement.
Donc c'est pas non plus on peut, c'est bien.
Ouais, mais je trouve que c'est bien.
C'est un atterrissage en douceur, on va dire. Mais
alors
c'est pas,
l'atterrissage en douceur,
on est loin de la DS quand même.
On peut quand même signaler que il y a quand même eu plus de 14 millions de Pokémon Lune et Soleil qui ont été vendus à compter de novembre, je crois, jusqu'à la fin 2016.
Ah bah ça, Pokémon, ça fait vendre.
C'est n'importe quoi.
Je
de
me
toute
rappelle
façon.
De personnes qui disaient, est-ce que la licence Pokémon est toujours aussi juteuse? Bof, on émet des doutes, etc. Mais je veux dire, pourtant, tu avais eu un aperçu avec Pokémon Go. Hein, et je
et
trouve
Pokémon
que...
Go était le propulseur,
mais
à mon avis,
voilà,
pour ces deux jeux-là.
Exactement. C'est un point qui me paraît très important. Ouais. Beaucoup de gens disent, ah, Nintendo, ça y est, c'est foutu. maintenant, ils font même des jeux sur smartphone. C'est que,
et on n'a pas
que,
les chiffres de Fire Emblem
c'est
encore
que
pour
c'est
l'instant.
L'agonie, tu vois, ils sont obligés de faire ça. Mais en fait, non, très intelligemment, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, très intelligemment, ils ont compris maintenant que pour aller toucher un nouveau public, aussi des jeunes qui se sont peut-être détournés des consoles portables parce que maintenant ils ont des iPhones, des iPads, des Android, et ben ils te leur foutent tout ça sur leur machine sur laquelle ils jouent, et après ces gens-là vont vouloir avoir entre guillemets l'expérience pleine,
console.
Le gros jeu sur console de
bien
salon
sûr.
Ou portable.
Et parce du que coup, tous les jeunes, enfin tout le monde a un téléphone portable.
Ça m'étonnerait pas bien que sûr. Le prochain Fire Emblem sur Switch bénéficie de l'attrait que le Fire Emblem smartphone a pu créer et se vendent peut-être mieux que d'habitude.
Ça crée un peu de hype, toutes ces applications smartphone que tu peux avoir, du genre, moi j'avais pas mal joué à Fallout Shelter.
Absolument.
C'était sorti deux
c'est un carton aussi, hein,
pour
les
deux.
J'étais fou. Et puis
c'est une piste de lancement en fait.
J'étais complètement prêt pour le 4, j'étais à fond dans mon
c'est
truc.
C'est méga
et
promo.
Tout.
Ça accompagne agréablement.
C'est pas la seule application à laquelle j'ai joué comme ça. Par exemple, j'ai pu jouer un petit peu un truc qu'ils avaient sorti. Pour Mortal Kombat XL, ils avaient sorti une application. Tu déverrouillais des costumes dans le jeu complet en te servant de l'application.
Ça, c'est cool.
Et tout.
Tu crées des passerelles.
Les petites companion apps, là.
Voilà.
Mais oui,
ça te donne envie de jouer au truc complet.
Les beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs nomades aujourd'hui ont quand même fait la migration sur leur smartphone. Et je veux dire, si... on le sait tous. Après, si on veut se faire l'autruche, etc., on se dit, ah bah non. Mais si tu constates cela, eh bah, il faut aller les chercher là où ils sont pour peut-être pouvoir... en reprendre une partie, hein, mais même peut-être 5 ou 10%, mais qui n'aurait peut-être pas été sur ta console portable ou de salon avec le full jeu à plein pot. Quoi.
Après, c'est vrai que Pokémon, ça fait plus vendre que Zelda. C'est sûr que...
Ah, bah, peut-être qu'on aura un truc avec Zelda sur smartphone un jour.
Je l'espère aussi. Après, moi, je me vois pas jouer à Zelda sur smartphone, mais, mais pourquoi pas surtout sur des gros écrans.
À la fois, on
ne
voyait pas jouer à Mario sur smartphone, et au final, hormis la connexion permanente qui est putain incompréhensible et n'importe quoi.
C'est un truc incompréhensible, tout à fait.
Et le prix lui-même
mais
aussi.
C'est un runner. Zelda, c'est quand même un jeu d'envergure. Donc
d'ailleurs, j'entends le loup, le runner
forcément.
Et la belette. Je sais pas si vous savez. Je l'avais jamais fait encore.
Mon Dieu.
Voilà. Allez, Laurent Ruquier, dégage de mon corps immédiatement.
Avec les sons débiles.
On parlait justement de l'exposition grâce à Pokémon Go ou grâce encore à Fire Emblem Heroes là, qui vient d'arriver sur smartphone. Il y a aussi pour la Switch bien cette pub au Super Bowl. Messieurs, dames, tout de même.
Ah, oui.
Une pub au Super Bowl de la part de Nintendo pour la Switch, c'est encore une fois un gros coup de projecteur histoire de dire « Eh, on arrive bientôt !»
Bien sûr.
Je me demande combien ça coûte une pub.
Extrêmement cher.
5 millions pour les 30 secondes.
Ouais. Voilà.
Combien ?
5 millions pour les 30 secondes.
Elle dure combien de temps déjà la pub ?
Celle-ci, elle doit durer 1 minute 20. Alors Poufi, il a peut-être sous les yeux.
10-15 millions.
Pour nous dire.
Voilà.
10-15 millions, ouais. C'est beau.
Ils ont un peu de sous.
Parce qu'autant de voir une bande-annonce de Pirates des Caraïbes au Super Bowl, bon, tu te dis, voilà, c'est du cinéma, mais de voir une pub de console comme ça balancée.
Oui, bah après, c'est logique, c'est le temps fort.
On est à un mois de la sortie.
On est à un mois de la sortie. Enfin, je veux dire, il faut être présent
très, très
à ce moment-là.
J'arrive pas à me rendre compte.
Moi, vous voulez que je vous dise, plus je vois les pubs. Plus enfin nous c'est pas trop le cas, mais j'ai entendu beaucoup de gens rigoler sur One to Switch. Je parle pas de la polémique sur le prix, le fait qu'il pourrait être livré avec ou machin, etc. Ça, on est tous d'accord, pour nous en tout cas à Gameblog, on pense que ça aurait pu être au moins en démo avec, enfin
c'est oui, le bah, sport de la
on aura peut-être une surprise sur l'eShop, hein, tu sais, une petite
non,
démo vite fait.
A priori, ils ont dit que non, hein.
Qui sait,
a priori tu vas le payer 50
euros. On aura une surprise à la 3DS, genre on l'achète 300 balles là, en mars, putain, puis elle baisse de prix en juin, et puis on nous fait des cadeaux.
Mais en revanche, je trouve que c'est ultra vendeur dans les pubs. C'est-à-dire que les trucs avec le champagne, les machins, moi j'ai l'impression de revivre le truc de la Wii, et
exactement,
c'est ce qui a quand même fait plaisir aux gens. Et je trouve qu'en plus, n'oubliez pas une chose, c'est que cette console, bah, elle est de salon, ça vous pouvez jouer, mais elle est nomade. Donc il y a des gens qui vont la trimballer plus qu'ils ne trimballaient la Wii, vont la ramener à la campagne, à la maison, à leur famille et tout, puisqu'en plus elle a pas besoin d'une télé, tu la mets le machin. Donc c'est super facile. Et donc ce One to Switch, il a un pouvoir viral phénoménal, tu peux même y jouer dans un parc, etc.
Et c'est compréhensible partout,
immédiatement. C'est rigolo,
c'est
tu peux jouer 5 minutes, tu t'amuses. Le truc du cowboy,
il y avait
compagnie.
Un truc que j'avais pas vu là, le truc des pouvoirs là, c'est dans One to Switch ou dans Arms, c'est ça, c'est là, c'est pour les premiums qui viennent
de voir la vidéo.
C'est dans quoi ça?
C'est One to Switch.
C'est dans One to Switch, ouais, aussi, ça. J'ai pas fait celui-là.
Non mais parce qu'il y était pas.
Il y aura une vingtaine de jeux.
C'est ça, on a vu qu'une sélection de jeux. Et je pense que franchement, ça peut être très très grand public. Je vois, j'imagine déjà des émissions qui. Moi je n'apprécie pas plus que ça, mais des trucs d'Hanouna et Bidule, ils vont te faire Nintendo, filer des Switch, et ils vont te faire deux trois trucs comme ça, et bim, ah, c'est rigolo.
Avec la Xbox de Nintendo,
et je pense qu'ils peuvent recréer un espèce
de Nintendo, oui, mon dieu,
recréer des trucs grand public, très efficaces. Donc moi je suis assez confiant.
C'est ce genre de jeu où tu te dis, bah oui, c'est pas des grands jeux, et c'est la réalité, c'est pas des grands jeux,
ça,
hein, c'est sûr.
Peut-être pas forcément aux hardcore gamers,
mais justement, mais... ça s'adresse à un public tellement large, les enfants, les familles, les jeunes, et c'est tellement accessible, comme tu dis, bah, que finalement, tu
peuvent
dis
nous refaire
que
le coup
ça peut cartonner,
des maisons de retraite,
quoi.
Là.
Ah oui, complètement. Ouais.
Bah oui.
Ah bah là, tu vas avoir papier et mamie qui vont jouer au truc au Dieu et le soleil.
Ouais, ou les trucs, tu sais, pour craquer le code, machin, tourner et sentir les petites vibrations. C'est clair, c'est net, c'est efficace,
ou
c'est
pour
rigolo.
Traire les vaches, c'est marrant.
C'est intuitif. Ouais, oui, les mini-jeux sont suffisamment.
Ah, surtout celui-ci là, oui. Ah oui,
celui-là est pas mal.
C'est
dans
celui-là.
Ah, ouais.
Celui-là
est pas mal.
Non, mais tu les connais.
Tu peux remettre vite fait, Poufi, pour nos. Ah oui, alors.
Non, mais tu les vois déjà, les gifs qui vont popper.
Ah, mais ça, on a déjà eu.
Des mecs, mais évidemment.
Oh la vache, lui, il y va.
Mais chaque personne qui va faire ça, même si c'est pour se foutre de la gueule du jeu,
ça peut devenir viral, quoi.
De ce truc là, ouais, ça peut être efficace.
Ça, c'était le meilleur passage de toute la pub, je crois, qu'on a vu là à l'instant.
Mais il est pas anodin.
Ah non, il est pas anodin du tout. Non, je pense que Nintendo est totalement subversif. Bon, bref,
bien sûr.
Tu parlais justement du fait que ça ressemble beaucoup à la Wii, et justement, monsieur Kimishima, le patron de Nintendo aujourd'hui,
à la fin, elle fait quand même une gueule, je veux dire.
Non, mais même lui, il donne sa race là quand
là,
tu fais ça.
Machin, là, pam, ouais.
Enfin, ah, oui, bon. Ah oui, t'imagines qu'elle en aurait plein le visage, oui.
oui,
ce podcast est interdit
au moins
de 7 gens.
Ouais, désolé, c'est du Seven Up. En Formule 1, ils font la même, hein, donc il n'y a rien de super su.
Donc Kimishima, lui, tu parlais de la Wii, justement, du succès de la Wii. Lui, il imagine un succès équivalent à celui de la Wii.
Bon. Et je pense qu'il faut. Tatsumi,
s'il te plaît.
Je pense que c'est limite une anomalie là, oui, tu vois.
Il faut encore raison garder. Hein. Je trouve que le prix est encore un peu cher pour que ça déclenche la même pulsion frénétique que la Wii.
On est à 300.
Oui,
la Wii valait 250 balles.
Mais l'autre, c'était 50 balles de moins avec un jeu.
Voilà,
Donc là, c'était vraiment là, tu casses tes blocages mentaux.
Ah, puis c'était un nouveau concept. Enfin, c'était autre chose quand même.
Là, si tu veux faire One to Switch pour le grand public, il faut qu'ils achètent 300 balles plus 50 balles. Donc c'est quand même. Voilà, c'est 100 balles de plus que la Wii à l'époque.
Ah oui,
c'est
effectivement, c'était
peut-être
c'était
pas
une...
le succès immédiat, mais si les jeux suivent, s'il y a des trucs, des petites trouvailles, machin, bon, en tout cas, moi je maintiens, enfin, je reste assez confiant sur le succès de la Switch, si et seulement si on n'est pas déçu vraiment par l'autonomie, et si le catalogue de jeux Définitivement, est-ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire sous
s'il est bien étendu sur toute l'année,
c'est ça,
etc.
C'est ça. Faire mieux que la Wii, je sais pas. Mieux que la Wii U, c'est sûr. Enfin,
oui, ça c'est sûr.
Voilà. En tout cas, je lui souhaite, parce
je pense
que sinon,
le dépasser d'ici un an.
Ce serait triste, voilà. Mais moi, effectivement, je suis comme toi. J'ai toute confiance. Par contre, je trouve que ça a vraiment été toujours leur point faible, le catalogue entre guillemets à Nintendo, parce que c'était toujours, voilà, toujours les mêmes choses, toujours se reposer
oui,
sur
bien.
Leur laurier, machin. Et
on
aime bien.
Assez, mais...
Et on aime bien. Hein. Je suis contente de retrouver un Zelda, un Mario qui change un peu. Mais c'est vrai que j'aimerais voir d'autres choses, vraiment de nouvelles licences fortes.
Mais il y aura de la VR peut-être aussi. Hein,
de la VR, voilà.
Là, Kimi Chimé en a parlé aussi, que la réalité virtuelle viendrait.
Et
voilà, il veut,
voir comment,
comme à chaque fois, comme ce que disait Miyamoto, il faut voir s'il en arrive à s'en accommoder pendant des longues sessions.
Ouais, il faudra voir si l'accessoire sur lequel on met la Switch n'a pas des processeurs à l'intérieur pour l'aider, ou avoir une caméra, et dans ce cas-là, à quel prix il est. Enfin, il y a encore plein d'interrogations là-dessus.
Complètement.
Absolument. Par contre, on n'a plus d'interrogations. En tout cas au Japon, sur le prix de l'abonnement payant, ça a été discuté au début. On se disait, merde, c'est quoi ces conneries, maintenant Nintendo vont nous faire payer. Donc on sait qu'au Japon, aujourd'hui, ce sera un prix entre 2000 et 3000 yens, ce qui correspond environ à...
Par an.
Par an, oui, absolument.
Voilà. 20,
ouais.
Donc c'est pas cher.
15, 20 euros. Enfin,
entre 16 avant, et 21 gratuit, euros à peu près. Donc j'imagine que chez nous, ce sera entre 20 et 25. J'imagine.
25 et 30. Hein,
25 et 30, parce qu'on voilà, on est la dernière roue du carrosse, comme d'habitude. Et donc ça va, c'est plutôt rassurant.
Bah,
on soit pas...
PlayStation Network, tiens.
De quoi ?
Pourquoi pas un petit 50 euros ?
C'est vrai qu'on pourrait dire que la conversion magique est définitivement magique pour l'Europe, mais je sais pas, je pense pas qu'ils vont dépasser les 30.
Je trouve que c'est très correct. En tout cas. Ouais.
Il faudra voir l'infrastructure aussi.
Donc avant c'était gratuit, maintenant ça devient payant. Donc si ça devient payant, il faut que le service il soit quand même d'un autre niveau que ça.
Complètement. Mais ça me choque pas de payer, moi.
Non, mais par contre,
moi,
quand même, je maintiens, pour moi, il y a un truc que je trouve délirant, mais d'une puissance, mais stellaire, c'est le chat, c'est via ton smartphone. Il y a une appli sur ton smartphone.
Oui, ça c'est.
Ça, c'est pas dans la Switch. Et
ça,
je vais quand même payer
match,
pour avoir
ouais.
un service. Mais je vais quand même devoir avoir mon smartphone à côté. Donc
comment
Nintendo
je fais, si
qui était très
si
les enfants.
Si t'as un 3310, si tu fais
mais non, mais Nintendo qui est très pour les enfants et machin. En fait, globalement, ils partent du principe que ton gamin il a un smartphone ou que papa maman il a un smartphone.
Mais il veut aussi protéger les enfants pour éviter qu'ils se retrouvent à discuter avec un mec qui aura un Adolf Hitler sur son carte dans
oui,
Mario Kart
si
et qui va commencer à les insulter.
S'il a un smartphone, c'est fini. Parce que
s'il a un smartphone,
il fait une conf Skype et puis.
Mais comme on a vu tous ensemble les consignes pour le comment dire le verrouillage parental tout ça, on peut s'imaginer que Nintendo ils feront le nécessaire.
Mais non, mais il y a plus de nécessaire, c'est fini. Vu qu'ils te demandent d'avoir un smartphone à côté de toi.
Ouais, mais ils diront
donc, bah, t'es un gamin, si t'as un smartphone,
ils indiqueront sûrement ouais non mais si c'est vos enfants, évitez de leur donner.
Évidemment, et puis tu crois que les gamins ils vont écouter bien sûr.
Ah bah bien sûr.
Mais non, mais ça c'est valable, mais ça c'est valable partout, enfin je veux dire
bien sûr, mais sauf qu'à
un moment donné, il y a un contrôle aussi.
Bien sûr, mais si tu pousses l'écosystème dans la machine, tu le maîtrises. Si tu demandes un objet tiers,
Non mais je suis d'accord
avec
toi. Peux,
t'es pas obligé de prendre leur appli. Si tu veux. Tu peux prendre l'appli d'à côté qui s'appelle Skype ou ce que tu veux.
Ou simplement téléphoner.
Ou simplement téléphoner. Alors qu'avant, le gamin, si tu l'avais, tu lui filais peut-être pas ton smartphone, tu vois. Et si quand même Nintendo c'est pour les enfants.
On n'est pas à la
même.
C'est plus la même génération.
J'espère.
Si ils ont des smartphones.
Mais c'est ça le problème. On n'est plus dans la même. On n'est plus dans la même génération. Des iPads, etc. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je veux pas que mes gamins est un smartphone. J'espère que tu es d'accord avec moi d'ailleurs. À 8 ans.
Et Pona n'a pas de smartphone.
C'est comme ça. Ah, pas encore, non. Ah. Non. Bah, elle est petite, elle a même pas 6 ans.
Bah attends, 7 x 5.
Oui, non. Elle a une quarantaine d'années là. Mais, mais c'est un bébé.
Bon. Bah voilà, on aura fait notre petit point Nintendo. Maintenant, on va passer à un point beaucoup moins sympathique, à mon avis, en tout cas. C'est le point Trump.
Aïe.
Voilà,
ouais.
Il fallait un petit jingle, c'est donc le fallout de Johnny Watt.
Jingle quand même, parce que là ça tombe.
Vas-y. Alors,
ça va revenir.
Donc la politique de Donald Trump, je pense que si vous avez suivi les informations, vous êtes à peu près au courant de tout ce que le 45e président des États-Unis est en train de faire à l'heure actuelle, notamment
il fait,
son
il tweet, non, c'est ça.
Oui, il tweet pas mal absolument.
Oh, il est très bon communicant, ça tu peux pas lui enlever.
Alors notamment on peut commencer par l'augmentation des tarifs douaniers qu'il a prévu de mettre en place pour les produits hors États-Unis, ce qui reviendrait à une augmentation environ de 10% sur les produits qui ne sont pas internes eh bien, au territoire américain, ce qui voudrait dire donc que eh bien, pour les jeux vidéo et les consoles, ce serait la même salade. Et donc déjà, là, ça commence à faire
parce
un petit couac.
Les consoles, même pour les une Xbox qui est américaine, c'est fabriqué en Chine, à Taïwan, à machin, je sais pas qui, donc bah oui, c'est de l'import. Hein. Mais oui, bah, il veut renationaliser les choses. Quoi.
Ouais.
C'est de la politique,
donc
à la limite, ça ne nous regarde pas, c'est pas à nous de commenter ça, mais par contre, oui, s'il va au bout de cette idée-là, soit les constructeurs s'adaptent et font des usines, etc. Et entre guillemets, ça fera de l'emploi aussi aux États-Unis. Hein.
Absolument, oui.
Mais s'ils le font pas, ça va faire monter les prix.
Et avec la conversion magique en Europe.
Encore une fois.
Non, nous, ça devrait pas nous impacter.
Oui, c'est vrai. C'est pas les produits américains qui vont venir chez nous après avoir
été. Mais ils peuvent le répercuter.
On va vendre la Switch 350€. Bon, on va la vendre 350€.
Non, mais ils peuvent très bien se dire, du coup, on augmente les prix dans le monde entier pour que les Américains, entre guillemets, le subissent pas mieux. Là, c'est de la politique, et c'est de la politique politicienne et de la politique de société et de constructeur. Donc, c'est pas
glorieux. Bon, il y a eu aussi le fameux décret anti-immigration, vous savez, qui était censé empêcher des ressortissants de 7 pays du Moyen-Orient et d'Afrique de se rendre aux États-Unis, qui a été cassé par un juge de Seattle il y a quelques jours.
Et un deuxième.
Et encore un autre.
C'est laquelle qui a été virée
Mais il y a une secrétaire d'État, qui a été virée.
Oui, parce qu'elle était contre, effectivement.
Absolument,
Mais il y a des juges, là, maintenant. Ouais. Là, les juges, ils ne peuvent pas les virer, comme ça.
Non. La jeune femme, justement, dont on parlait la semaine dernière, je ne sais plus d'où est...
Mais elle n'était pas jugée. Non, elle était au, à l'administration, justement.
Celle qui a été virée, celle qui a décidé, justement, qui s'est opposée à cela. Et je ne sais plus juge de quel...
Moi non plus.
Ouais. Mais c'est bien de voir qu'il y a des gens qui luttent contre ces décisions-là.
Justement,
aussi,
c'était ça dont on allait parler, puisque ce décret qui était censé interdire le territoire américain à des ressortissants de 7 pays pendant 90 jours, donc qui a été cassé depuis, a quand même eu droit à pas mal de réactions de la part de l'industrie du jeu vidéo. A commencé par Insomniac qui a posté une vidéo justement pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de ce genre de politique totalement je sais pas comment
raciste.
Ouais, voilà, enfin même pas raciste, qui empêche
rentrer dans ces considérations totalement étrangère à ce qu'est le fondamental des États-Unis. C'est un pays d'immigrants, les États-Unis. Donc je veux dire,
si un Américain dit à quelqu'un rentre chez toi,
c'est un peu compliqué.
N'oublie pas que tes origines sont irlandaises, anglaises.
Il n'y a quasiment pas un seul qui est américain.
Hollandais, bref. Et donc Insomniac a fait une vidéo. Harmonix aussi a posté un petit communiqué, notamment sur Twitter, pour rappeler que dans son équipe, il y avait des personnes de toutes les nationalités, de toutes les orientations, de toutes les religions, et que c'était comme ça qu'ils voyaient justement le développement d'un jeu vidéo et la création de manière générale. Il y a aussi l'ESA qui s'est prononcé, vous savez, l'association des jeux vidéo aux États-Unis, qui s'est prononcé à ce sujet. On a, si je ne m'abuse, Devolver aussi, qui a fait un petit geste. Alors bon, maintenant que le décret a été cassé, ils vont peut-être pas pouvoir le faire, mais bon, bref, ils ont fait un petit geste à destination des développeurs de ces différents pays pour leur dire si vous voulez que vos jeux soient quand même exposés à la Game Developer Conference qui se tiendra du 27 février au 3 mars prochain, envoyez-nous vos versions, on les montrera de toute manière sur notre espace, ce qui est quand même un geste très classe de la part de Devolver, et j'imagine que d'autres studios éditeurs s'y mettront aussi.
Un petit coup de pub aussi.
Je
pense qu'il y a dans tout ça, il y a un mix entre personnel, machin, et il y a un petit coup de
rien ne les oblige à le faire aussi.
Exactement.
Mais Devolver, ils ont un peu cette espèce d'esprit là, même dans leur jeu, tu sais, tu te rends compte qu'ils sont, j'arrive pas à trouver.
Ils aident beaucoup de petits studios à s'en sortir, donc on ne peut que apprécier le geste. Et puis il y a eu aussi évidemment tous les géants de la tech américaine, que ce soit chez Apple, Microsoft, ils sont tous montés au créneau.
C'est logique, parce que toutes ces boîtes emploient des gens intelligents avec des cerveaux, et ça, l'intelligence, elle vient de
partout,
quoi. Elle n'est pas américaine, elle n'est pas européenne.
Son père biologique est syrien.
Et je veux dire, même des gens qui sont sur le territoire américain mais qui peuvent être ressortissants d'un autre pays qui se tomberait dans cette liste là, mais je veux dire, peut-être qu'ils vivent aux États-Unis depuis super longtemps,
et donc leur famille ne peut pas venir.
S'ils partent pour, je sais pas, ils vont ailleurs, pour ils quittent le territoire pour partir en vacances, ils peuvent plus revenir.
Non, mais là, de toute façon t'es en train de parler d'un mec de toute façon qui prend des décisions qui s'avèrent totalement folles, décide du destin de 500 millions de femmes.
Après
c'est une logique qui est quand même assez terrifiante,
mais pour tout, hein.
Ouais.
après bon, c'est de la politique.
Pour ça, hein.
Ça se trouve aujourd'hui on dit ça, mais dans 4 ans on se regardera, on fera putain, il était fort quand même Donald Trump.
Il était bon quand même.
Ah, il était bon, hein, putain, vivement bon, qu'il se représente et tout. Non, je pense pas que ça arrivera.
Non.
Voilà, ça c'était pour le point Trump. Maintenant on va passer aux 3 thèmes de la semaine.
J'espère
le premier...
que le point Trump n'aura pas un point récurrent de Gameblog
non plus.
Non,
j'espère non plus.
Voilà, mais à la fois, il s'immisce aussi dans des domaines qui touchent le jeu vidéo. Donc
j'espère que
ce
sera plutôt pour un jeu vidéo dans lequel il se retrouve et dans lequel.
De toute façon, on en parle partout. Dans le milieu du jeu vidéo, on en parle. Tu vas, je sais pas, demain, tu vas avoir un site de basket, de NBA par exemple. Ils sont au taquet là-dessus.
Mais c'est bien d'en parler.
Il y a vraiment, pareil, dans le cinéma, les acteurs. Enfin,
ah bah, y a énormément un Oscarisable qui ne pouvait pas se rendre jusque-là aux Oscars quand même. C'est quand même assez fou.
Enfin, il s'invite vraiment partout, ce mec. Voilà.
Non, mais c'est bien de parler des réactions justement et des gens qui vont à l'encontre de ça et qui s'unissent justement. Contre ce genre de décret, de décision.
Et ça prouve une chose, c'est que...
Et de politique.
Évidemment, il y a des problèmes. Et évidemment, il faut tout faire pour les régler. Mais généraliser les problèmes, c'est pas la bonne approche. C'est évident, quoi.
Amen.
Aimez-vous
on peut passer...
Les uns les autres.
Exactement, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde.
Bordel de merde.
On va passer au premier thème, donc, comme je disais... Et c'est Nioh cette semaine qui sort. Il sort quand déjà
le 8 ou 9 février
sur PS4. Exclusivité PS4, un jeu qu'on attend depuis un sacré moment, qu'on qualifie souvent de Dark Souls du Japon médiéval. Un jeu qui est en gestation depuis plus d'une dizaine d'années. C'est au départ un script de Akira Kurosawa qui a été chopé donc par Tecmo Koei et sur lequel il travaille depuis un petit moment. Et là, ça y est, le jeu développé par Team Ninja est arrivé et donc
je trouve absolument incroyable quand même, c'est qu'il fait partie du trio magique hein.
Ouais.
Final Fantasy XV versus XIII,
Shenmue 3,
Last Guardian et Nioh. C'est à dire que les trois jeux qui ont 10 ans, ils ont eu un développement qui s'est étendu sur 10 ans, même si c'est jamais en fait les mêmes jeux hein, ils ont été redéveloppés, arrêtés.
Ah bah là celui-là il
et
a
Team
il
Ninja
a...
ils l'ont pris
il y
sur
y
la
trois jeux différents.
Voilà, c'est ça.
Il y a eu trois jeux
toi,
différents.
Tu les as rencontrés
Donc justement donc j'ai pu interviewer le chef de la Team Ninja donc qui me racontait en fait le jeu est vraiment passé par trois phases. T'as la première où c'était Tecmo Koei qui a voulu faire un jeu Japon médiéval avec William, donc le héros blond, qui est un samouraï anglais qui vient au Japon pour diverses raisons. Hein. C'est
non,
un personnage historique réel.
Oui, le personnage, mais il n'a pas poursuivi
l'auto. Il se battait pas aussi.
Ah, il s'est pas battu contre des yokai.
Non.
Il s'est inspiré de
fait.
Oui, personnage historiquement
existe. Mais tous les personnages qui sont dedans sont quasiment des personnages historiques.
C'est très Gérald de Rive d'ailleurs, je trouve. C'est un petit peu le style.
Et donc, ils ont. Alors que Nioh a été annoncé 3 ans avant la sortie de The Witcher.
Voilà.
The Witcher.
Donc, qui a copié qui
techniquement le roman existait depuis.
Oui, roman ça existe depuis moultes années. Et donc au début ça devait être un RPG, tout bête. Voilà. Et ils n'ont pas été satisfaits, du coup ils ont refilé le bébé à Omega Force. Omega Force c'est les Warriors, hein. Dynasty Warriors, Orochi, etc. Et pareil, ça n'a pas fonctionné. Du coup il y a quelques années de ça, le jeu est repassé dans les mains de la Team Ninja, donc célèbre pour ses jeux de
Ninja Gaiden,
de combat,
notamment.
De beat'em all, mais aussi de volleyball. Voilà.
On les connaît moins.
Team Boobs.
Oui, c'est des spécialistes du jeu d'action, hein, du beat'em all, voilà. Et donc, ils ont essayé de faire un jeu comme ça d'action. Et puis, c'était un petit peu la mode de la pleine hype Dark Souls et compagnie. Et du coup, ils se sont dit, on va se lancer sur ce créneau-là. Et puis, on va voir ce que ça va pouvoir donner.
Alors, est-ce qu'ils ont eu raison et est-ce que nos attentes sont satisfaites
Ils ont eu raison de faire ça. Donc, bon, il y a pas mal de mécaniques qui sont pompées dans Dark Souls. On retrouve énormément de choses. La première, ce sera l'exigence avec le joueur, c'est-à-dire que le moindre ennemi, même le tout premier du jeu, moi le premier m'a tué quand j'ai commencé mon test.
10, ça commence bien.
Ouais, voilà. Mais le premier dans
tu
Blue
as été
Born
libéré de
tué,
ce bas monde un bon nombre de fois. Donc...
le premier de Dark Souls m'avait tué aussi. Enfin bon, bref, voilà, c'est un petit rituel de passage, on va dire. Donc c'est très exigeant avec le joueur. C'est pas forcément difficile, mais il faut vraiment être au taquet. Il faut faire attention. Il faut pas y aller trop vite. Voilà. Et après, donc tu reprends aussi pas mal de mécaniques de Souls, du genre tout ce qui est le fait de lâcher ton expérience au sol quand tu meurs,
les shrines,
voilà,
les petits hôtels.
C'est plus des épées dans le sol maintenant, c'est des temples auxquels tu vas prier. Mmh. Mais donc en gros tu gardes vraiment le même principe, même au niveau du level design où tu vas avancer dans les niveaux. Bon alors là les niveaux sont plus petits, c'est pas une seule grande map, c'est des petits niveaux indépendants, mais ils gardent le même principe, c'est-à-dire qu'en gros ils vont faire une boucle, tu vas avoir le temple, à côté du temple pour prier une petite porte fermée, il va falloir faire le tour, déverrouiller le raccourci, voilà, etc. On retrouve vraiment pas mal de choses de Souls.
C'est incroyable comment Dark Souls a quand même infusé à travers le jeu vidéo en général et est devenu quand même un modèle pour beaucoup de titres et c'est pas fini, dont des majeurs à venir cette année.
Bah, j'espère bien.
Risquez d'être surpris.
Bon, on l'avait vu avec Bloodborne aussi, là maintenant Nioh. Moi j'avoue que Nioh j'y suis depuis... J'ai joué peut-être, je sais pas, 2-3 heures et j'adore. L'univers est fantastique. Oh, c'est pas très beau, mais c'est beau.
C'est fait. La direction artistique est quand même
voilà, la direction artistique est soignée, mais c'est pas... Voilà,
il y a plein de jeux qui n'ont rien à voir. Genre, par exemple, dans le dernier DLC de Resident Evil 7, il y a Ethan Must Die. C'est du Dark Souls, hein, avec tu meurs, c'est ultra dur, et tu peux récupérer ton XP, enfin certains des éléments.
Là, je trouve que c'est beaucoup plus léché, je trouve, effectivement, l'univers de Nioh, mais je trouve ça extrêmement difficile. Alors, Dark Souls, j'imagine pas, mais en tout cas, c'est vrai que Nioh me donne envie d'essayer Dark Souls.
C'est plus exigeant que difficile, en fait, c'est surtout ça.
C'est plus exigeant que difficile.
Il faut
en
la patience. Hein.
Les ennemis, ils vont te, comme je t'ai dit, là, le premier dont tu m'as parlé tout à l'heure, là, lui, en effet, il va te mettre deux coups d'épée, il va te démonter. Sauf qu'en fait.
Là j'ai du mal avec lui.
Sauf qu'en fait il faut apprendre à l'esquiver, apprendre ses patterns, bien regarder comment il fait, être patient en fait, tout simplement.
Oui c'est ça, c'est ça. Ouais. Effectivement, il faut pas lâcher l'affaire. Pas trop, tu me disais, hein, ce.
Non, alors moi ce que j'ai trouvé.
Pas
ouais,
trop avant sa garde, parce que je me suis rendu compte que je restais bloqué.
Trop punitive dans ce jeu.
Tu peux plus bouger.
Comparé à un Dark Souls, dans un Dark Souls, t'es toujours avec ton bouclier, mais là le problème c'est que si tu gardes, tu perds de l'endurance. Et ton endurance, tu en as besoin pour taper, pour esquiver, etc. Mm-hmm. Et du coup, si tu pars par exemple un boss qui va te faire un pattern avec trois attaques, il va faire bam bam bam, t'as plus d'endurance, t'es stun et t'es mort.
C'est terminé. Et alors là je me suis pris des colères et Julien me regardait et riait et me donnait des conseils, mais j'arrivais pas,
qui a encore les fesses toutes rouges, les bêtas,
il a battu mon yokai.
Mais justement la séquence qu'on vient de voir en vidéo si vous êtes premium, elle est très instructive, c'est sa manière de jouer, c'est pas du tout Devil May Cry, c'est pas du tout Onimusha.
Non, là c'est tu frappes, tu recules.
C'est être super attentif, laisser la pattern de l'autre, y aller en contre, etc. Si tu fais du button mashing,
par exemple, on vient de voir un petit truc là, par exemple, il y avait une petite lumière bleue autour du mec. Au-delà d'être un bon Dark Souls, c'est aussi un bon beat'em all, parce que il y a des mécaniques qui sont vraiment super intéressantes.
C'est ce que je disais.
Pour recharger le ki, c'est le genre de truc en fait que tu retrouves dans les jeux de Platinum. Voilà.
C'est-à-dire que tu peux changer d'arme, de stance.
Alors t'as plusieurs armes et donc bon, là ça les armes, elles ont chacune leur maniabilité. Moi j'aimais bien la lance, voilà. Mais bon, t'en as 5 ou 6 différentes.
J'ai pris katana double, katana, ça va, c'est bien. C'est rapide, je demande des conseils quand même.
T'as qu'un seul personnage, donc du coup les spécialisations qu'il y a dans un Dark Souls, où tu peux être un voleur, un chevalier, un clerc,
c'est un peu pareil.
Tu te retrouves avec les mêmes choses, mais d'une autre manière.
T'as l'animal de compagnie,
c'est un peu
là,
moins
qui...
poussé peut-être au niveau magie. Tu vas avoir un Nimpo, donc ça c'est un Nimpo. Voilà, j'utilise le terme de Ninja Gaiden en fait, parce qu'en plus c'est les mêmes boutons pour le déclencher. Ou en gros ton personnage devient super puissant. Moi par exemple celui avec lequel tu commences c'est un petit loup qui t'amène un pouvoir de feu. Voilà, après tu vas en avoir plusieurs, tu vas choisir le bon en fonction du boss que tu vas aller battre, etc. Mais donc t'as vraiment des mécaniques super intéressantes en termes de beat'em all. Donc le fait de pouvoir recharger ton ki, ça c'est vraiment un truc, ça m'a fait penser à ce que tu peux trouver dans un Platinum, par exemple la mécanique d'esquive dans Bayonetta ou de Metal Gear Rising. Voilà, c'est vraiment sur ce niveau là c'est un petit bonus qui va te permettre de tout casser. Voilà, vraiment. Si tu arrives à bien le maîtriser, bien sûr. Voilà. Et après, toi, t'as l'histoire des stances. Donc, t'as une posture haute, basse et moyenne. Et pareil, selon l'ennemi contre lequel tu vas te trouver, tu vas en prendre l'une ou l'autre. Tu vas pouvoir taper plus rapide, mais moins loin et moins fort. Mmh. Ou au contraire, plus loin, plus fort, mais ce sera beaucoup plus lent. Enfin, voilà.
Donc, en termes de profondeur, si on compare à un Dark Souls de manière globale ou
un
Bloodborne.
Au niveau gameplay, il y a un peu plus de profondeur quand même en termes de. Bah, c'est un vrai beat'em all. Voilà.
D'accord. C'est plus beat'em all qu'un Dark Souls. D'accord.
Carrément.
Mais tu joues quand même avec les chocottes. Toi, tu flippes quand même quand tu quand t'avances.
Ouais, mais tu vas à tâtons quoi. Mm. Tu ne jettes pas la gueule la première dans la bouche du loup.
D'accord.
Voilà.
Et tu du coup ce qualificatif de Dark Souls-like un petit peu trop Dark Soulsisé justement, c'est quelque chose de mérité? Comme on craignait un clone de Dark Souls en fait. Est-ce que c'est le cas ou est-ce
bah,
que...
Il reprend vraiment pas mal de mécaniques, ouais. Oui, c'est un Dark Souls-like, vraiment.
Mais il arrive quand même à surpasser cet état.
À mettre déjà, en fait, il a deux points très particuliers pour lui. Le premier, ce sera déjà sa direction artistique, hein, qui n'a rien à voir avec celle de Bloodborne ou avec celle de Dark Souls.
Plus proche de Nimusha peut-être.
Ouais, voilà, exactement. Mm-hmm. Ou même de tous les museaux. En fait, c'est marrant parce que ça reprend même le character design. C'est du Warriors Orochi de Omega.
D'accord.
Force, voilà, un monde avec les héros, les Nobunaga, les comment ils s'appellent là.
Oui,
le,
c'est cette époque.
Tori Hanzo, enfin voilà, tous les personnages historiques. Ils ont même repris le caractère design des jeux Omega Force, voilà, des jeux Warriors. Ouais. Et donc t'as un univers qui est vraiment vraiment vraiment.
Il y a vraiment une identité quoi. Bah,
ouais,
c'est très japonisant
très, très,
quoi,
très,
par
très
rapport aux Dark Souls.
Exactement. Et après en termes de gameplay, vraiment. Voilà, en termes de beat'em all, on voit que les mecs ils ont fait Ninja Gaiden et compagnie et qu'ils savent ce qu'ils font.
D'accord,
voilà.
C'est affûté, c'est ciselé, ça répond bien. Bon,
c'est pas Suda 51 qui fait un beat'em all. Voilà.
Ah,
c'est des...
Suda, mon petit
Pourtant
chouchou.
J'aime Suda, mais bon,
c'est vrai.
Voilà, ces jeux sont assez basiques. Là, il y a vraiment de la grosse profondeur en termes de gameplay.
Bon, en tout cas, c'est pas du Suda Light donc.
Non.
D'accord. Eh ben écoute, merci. On rappelle que Nioh donc c'est ce 8 ou 9 février.
8 ou 9,
9,
ouais.
8 ou 9.
J'ai plus la date en tête.
C'est mercredi donc c'est le 8 février.
Ah, le 8 février.
C'est
une bonne date, hein, le 8 février.
C'est pas le jeudi 9 justement. Il me semblait que c'était le jeudi que ça sortait.
Bah,
non,
chez Sony c'est le mercredi.
Ok.
Ils sortent leur jeu le mercredi donc.
Donc jeudi 9 février.
8.
Non, mercredi
8.
Ok, mercredi 8 février sur PS4 uniquement. Nioh qui s'est récolté la note de 8 sur 10.
Indispensable
de la part de Johnny One, ce qui veut dire en gros foncer.
Ouais, si vous avez aimé les Souls et compagnie, il faut y aller. Hein. Franchement, ça va vous faire votre jeu de l'année, hein, vu qu'en plus il n'y en a pas forcément de prévu de nouveaux Souls là dans l'immédiat. Voilà, donc ça vous fera votre petit plaisir.
Un jour.
Oui, annoncé, mais pas sorti en 2017.
Imagine. Non, mais imagine un peu, ça arrive.
Bah, peut-être.
Qui sait.
Peut-être.
On va passer au deuxième thème de la semaine. Merci Johnny. C'est Horizon Zero Dawn. Julien, t'as eu la chance de te rendre à Amsterdam pour pouvoir l'essayer. D'ailleurs, je t'en veux. Parce que j'avais super envie d'y jouer aussi. Et donc, t'as pu y jouer pendant 4 heures. Ce qui est quand même un temps raisonnablement... impressionnant
Généreux.
Pour pouvoir se faire une idée de toutes les promesses de Horizon Zero Dawn. Alors est-ce que après avoir pris le jeu plusieurs fois en main dans divers
avec une visite
divers...
des studios aussi où malheureusement vous l'avez vu dans mes impressions on n'a pas pu filmer mais en revanche on a rencontré beaucoup de développeurs, on a parlé avec eux et ils ont été assez généreux dans ce qu'ils nous ont expliqué, dans ce qu'ils nous ont montré, la création des créatures, donc des robots, l'ampleur de l'univers, etc.
C'était
très enrichissant.
Ils savent que leurs robots font penser aux Zoids ou pas? Alors, je dois être le seul qui connaît les Zoids ici, je suis sûr. Alors les Zoids, c'était des jouets dans les années 80 qui étaient des dinosaures justement mécanisés. Comme
ça me dit peut-être quelque chose, mais je m'en rappelle
c'est
pas.
C'est très vieux.
Je crois que j'en ai de cette truc-là.
Ouais, j'avais un T-Rex.
Un T-Rex, un truc. Ouais.
Bah, par exemple, tu vois
le
T-Rex qu'on avait découvert dans le tout premier trailer d'ouverture, enfin, quand on a découvert le jeu, ça a été 18 mois de travail. Alors quand on dit ça, il faut tempérer évidemment. C'est
en termes d'animation et de modélisation.
Ah bah de tout. D'idées du truc, de création. En fait, ils partent à chaque fois d'un animal existant. Donc bah là évidemment le T-Rex.
Ah bah oui, il existe encore
mais
le T-Rex.
Mais pour d'autres animaux, oui, enfin existants ou ayant existé. Uh-huh. Mais ils ont pu passer par exemple sur des. Ils ont pris des modèles sur des kangourous, sur des moustiques, etc. Et en fait après, ils le créent en design industriel, c'est-à-dire. Comme si il devait exister pour de vrai.
Imprimé 3D donc.
Pas tout de suite. Ah. Mais d'abord ils font toutes les parties, toutes les composantes mécaniques. En gros, ce truc, il pourrait. Si après t'avais un mec qui avait plein d'argent, il pourrait le fabriquer quoi. Mais même les parties que tu ne vois pas. C'est-à-dire tout doit fonctionner. C'est-à-dire que s'il y a une créature et nous en ont montré une. Qui porte sur son dos une espèce de cuve dans lequel il y a un liquide qu'il aspire comme un tapir.
Les tapirs pour les fourmiliers.
Voilà. Voilà. Et bien à l'intérieur, en fait, il y a tout le réseau de tuyaux qui va amener le liquide à l'intérieur, qui machin. Voilà. Même si tu le vois pas, en fait, c'est là où c'est des ouf.
Non, mais ils ont des ingénieurs
c'est
chez
pas,
eux
ouais,
pour
ouais,
réfléchir
pas,
à
c'est
tout
pas
ça.
Un peu bullshit, ça.
Ah bah ils nous l'ont montré. Ouais. Devant nos yeux, ils nous l'ont montré. C'est-à-dire vraiment, en fait, et ça c'était intéressant dans la visite de studio. Et bien sûr, je vous parle du jeu après. On a passé par 4 ou 5 secteurs pour la création d'un robot.
En fait, ils veulent pas faire un jeu vidéo, ils veulent dominer le monde.
Ouais, c'est ça.
Et donc le premier gars, en fait, il a été débauché. Enfin, son métier initial, c'était architecte industriel, quoi. Donc lui, bah tac tac tac. Donc il fait tout ça. Après, ça arrive chez les mecs qui vont devoir en faire un personnage de jeu vidéo. Donc parfois, ils sont obligés de rechanger un peu les formes parce qu'après, avec les animations, ils se rendent compte que la plaque d'acier, elle tapera trop sur le cou et donc ce serait pas réaliste et que machin. Donc ils le changent un petit peu. Après, il y a toute la modélisation, les textures, les machins. Après, il y a les mecs qui font les IA. Après, il y a le mec qui font les pathfinding. Donc on est passé comme ça. Et ils nous ont filé, je l'ai eu entre les mains. Hein. C'est vraiment frustrant qu'on ait pas pu vous le filmer parce que je peux vous dire qu'avec Poufy, on a vu beaucoup de belles choses. La Bible
pardon,
pour chacun des robots, etc. Et celle qu'ils nous ont montré, donc celui qu'on a suivi de la création jusqu'à la fin, 50 pages, enfin 47 pages pour être très précis, 47 pages de notes, de dans telle situation, ça lui enlève tel point de vie, quand il réagit comme ça, en fin de vie, il doit réagir comme ça, tel set d'animation, il est inspiré de tel personnage. Enfin vraiment, je les ai feuilletés une à une et tu fais, mon Dieu, et le mec nous a pas dit le chiffre exact, mais il y a entre 20 et 30 robots dans le jeu différents et chacun ont comme ça leur manière, leur comportement, leurs réactions, leurs animations, leur machin. Et alors, ok, j'entends ce que tu dis, Johnny, et là tu te dis ouais, un peu bullshit, mais le truc c'est que quand tu joues au jeu, avec Poufy, on se regardait, et on se disait, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas eu cette sensation d'un jeu à ce point-là, riche et fini.
Abouti quoi.
C'est une nouvelle IP, donc souvent les nouvelles IP, ah ouais bon, on a plein d'idées, plein d'envies, puis bon, on fait des compromis. Alors une fois de plus, faudra voir dans le test au final, hein, mais en tout cas dans ces 4 heures de jeu là, je peux vous assurer que on a gratté la surface du jeu. Hein, et quand on dézoomait, c'est un open world, vraiment open world, d'une densité, enfin vous le voyez dans les images, hein, c'est vraiment ce que à quoi j'ai joué. Hein. C'est extrêmement riche, les éclairages sont très chaleureux, c'est un jeu très coloré, les forêts sont très denses, l'humidité quand il pleut, tu la ressens, les créatures sont très différentes, il y a de l'action extrêmement agréable à prendre en main. Moi c'est ça qui m'a étonné pour un jeu entre guillemets occidental, c'est que j'ai retrouvé un plaisir de prise en main japonaise un peu. Mm-hmm. C'est-à-dire un personnage à l'œil qui a un bon poids, tu vois, qui est ni trop lourde ni trop légère, qui se déplace bien, que tu prends vite en main, et pourtant elle fait beaucoup d'action. Tu peux faire de l'infiltration, et de l'infiltration pas trop con-con, où tu vas scanner les certains robots qui sont en fait, parce que dans les robots, bah t'as les robots on va dire assez paisibles, je sais pas, des chevaux ou des trucs comme ça, et t'as des robots qui les gardent en fait. Parce qu'en gros, tu vas avoir ceux qui vont récupérer des denrées et les autres qui vont les surveiller. Et eux, tu peux les scanner. Tu vas découvrir en fait leur parcours de garde, de ronde. Et donc, tu vas t'adapter à ça. Alors, tu peux dire, ouais, c'est un peu facile. Sauf que parfois, ils sont 4, 5, 6 séparés. Donc, oui, il faut composer avec ça. J'ai même pu apercevoir un petit peu plus tard dans le jeu qu'il y avait aussi des humains, mais renégats. Donc, il n'y a pas que des robots. Il y a aussi des animaux totalement naturel là, non robot, donc tu vas pouvoir faire de la chasse. Il y a l'élément RPG qui est relativement présent, hein,
Oui, j'allais dire, comment ça fonctionne, c'est un système de quêtes,
t'as des quêtes, plein de
à
quêtes
The Witcher,
voilà. Alors là je sais pas, je peux pas te dire si elles sont aussi bien scénarisées que The Witcher. Je dirais même que pour l'instant c'est peut-être le seul bémol que j'apporterais, c'est que la palais principale, où là il y a une super mise en scène, c'est très beau.
Ah, c'est du champ contre champ quand voilà, tu vas parler
ça
à quelqu'un.
Voilà, un peu à la Mass Effect, tu vois son visage, très bien fait, bien animé et tout, mais genre je te regarde, tu me regardes, je te regarde.
Ça, ouais.
Bon, et comme il y a finalement pas mal de quêtes et de discours.
Non, mais c'est déjà une c'est voilà. Déjà foiré là.
Bah, ça, c'est peut-être le seul truc où j'ai fait, au bout d'un moment, tu fais, oui, bon, d'accord. Mais à la fois, il y a l'air d'en avoir tellement que, oui, tu peux comprendre qu'ils aient pas une mise en scène à chaque fois, de ouf, bénidule. Et t'as des choix de scénarios en fait qui auront à la Heavy Rain ou à la Beyond Two Souls
des choix dans les dialogues
Les dialogues qui vont avoir des répercussions à court, moyen ou long terme, et des choix qui vont concerner pas toujours hein, mais certains le cœur, la tête ou la force. En gros, par exemple, et je veux dire c'est pas un spoiler majeur parce qu'il y a eu des trailers, mais je vous en dis pas plus, mais au début du jeu vous êtes dans un état où vous allez faire des choses, et ça va être clairement indiqué, hein. Cette réaction, ce sera plus à l'œil, on va dire, la branche RPG, le cœur, la branche RPG, la tête, ou la branche RPG, la force, et ça aura des répercussions. J'ai rencontré le scénariste du jeu, il a dit ça, par exemple, vers la fin du jeu, il est possible que vous rencontriez le personnage et qu'en fonction de votre choix initial en tout début de jeu, il ne réagisse pas de la même manière. Bon, bref, il y a vraiment cette espèce de mystère autour de ce, qu'est-ce qui s'est passé à l'humanité, puisque vous savez,
c'est dans 1000 ans, c'est ça ?
C'est dans 1000 ans, donc la nature a repris ses droits. Dans mes 4 heures de gameplay, au début, c'est très très végétal. Et puis, enfin au tout début d'ailleurs, pas tant que ça. Y a vraiment, on voit vraiment la technologie. Mais après, c'est très végétal. Et plus tard, c'est presque Last of Us, parce qu'on voit des cités, enfin des villes d'aujourd'hui,
des restes.
Hein, avec des panneaux de circulation et des machins.
Des restes du ruines, monde.
Des ruines de notre temps, ouais. Vraiment, tu vois à perte de vue. Y a un petit peu, sur les petites choses techniques que j'ai pu noter, il y a parfois un tout petit peu de popping. Mais franchement, ça m'a pas dérangé tant que ça. C'est par exemple quand tu prends une, tu sais pas une liane là, mais
une tyrolienne,
voilà. Mm-hmm. Là, tu fais quand même une grande distance en très peu de temps. Oui, parfois il y a quelques buissons qui popent. Mais hormis ça, quand t'es dans le jeu, bah j'en ai pas vu tant que ça. Et on a eu un moment. Mais donc le jeu n'était pas fini encore à ce moment-là. Un moment, ça ramait bien dans une zone très précise.
Joué sur PS4 normal.
Qui était joué sur PS4 normal, d'accord. Voilà. J'y ai joué aussi sur PS4 Pro et bah oui, bah tout est un peu plus fin, c'est un peu plus chaud, le HDR apporte une profondeur de champ supplémentaire. Moi je trouve que c'est pas révolutionnaire, tu vois, t'as pas un choc quantique, genre t'as pas l'impression de jouer pas au même jeu, tu vois. Mais quand même, c'est le premier sur lequel tu vois sensiblement une amélioration, mais bah, il est quand même déjà vraiment très beau. Enfin, je veux dire, j'y ai joué moi mes 4 heures de jeu, j'ai dû y faire, je sais pas, 3h30 sur une PS4 normale et une demi-heure pour voir un peu sur un écran 4K.
Oui, c'est comme pour Uncharted 4, quoi, tu vois pas une différence.
Non, c'est plus.
Même plus,
ouais, un peu
quand
plus
même.
Quand même. D'accord. Plus sur Uncharted 4, vraiment.
Julo, il nous avait dit qu'il avait vu la différence, genre
oui,
de ouf, lui, hein.
D'accord.
De son côté.
Bah, voilà. Disons que je pense que si tu prends ta PS4 normale et que tu joues sur un écran 4K. Oui, bah oui, forcément.
Exactement, mais ça dépend aussi de ton écran.
Bah c'est ça.
Voilà.
Mais si tu, mais en gros, quand tu passes d'une PS4 Pro sur écran 4K et d'une PS4 normale, évidemment, oui, c'est plus beau. Je te dis, les textures sont un peu plus fines, l'éclairage est plus chaud, le HDR marche bien là, il est bien équilibré. C'est un peu plus fin, ça. Mais c'est tellement déjà vraiment beau sur PS4 normal. Après, à taille d'écran équivalent, oui, bah, je suis sûr, tu vois, nous on y a joué sur un 65 pouces 4K. Et sur la PS4 normale, bah, vous l'avez dans les images de mes impressions. Hein. On était sur une petite télé. Donc forcément, ça aide et ça joue, évidemment. Hein. Si tu jouais sur un 65 pouces avec une PS4 normale, je pense qu'on verrait plus les défauts ou l'aliasing. Mais enfin, t'as pas honte, quoi. Tu vois, t'es pas là à faire genre.
Ah, oui, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau. Hein.
Les gens qui n'auront qu'une PS4 se sentiront pas lésés, ceux qui auront une PS4 Pro sentiront que leur machine, ça y est, elle commence à les satisfaire. Donc moi j'ai trouvé ça agréable à jouer. L'open world est relativement varié puisque tu as des zones de neige, des zones des forêts, des cavernes. Super belles les cavernes avec les stalagmites, les stalactites, etc. Tu vois là comme ça à perte de vue. Les créatures sont très diversifiées, tu vois, t'as un bestiaire quand même d'une vingtaine, trentaine d'animaux différents qui ont vraiment de la gueule, qui sont durs. Hein. Quand tu commences à te faire voir, tu rentres en combat. Waouh! Là, faut s'accrocher. Hein. Faut les esquiver, les contre-esquiver, les machins. C'est assez bourrin. Enfin, bourrin dans le sens, ils viennent t'agresser, quoi. Ils sont pas peinards. Hein. T'as un arsenal qui se développe assez vite, tu vois. Moi, j'avais une espèce de petite lance pour du corps à corps, pour hacker les créatures, certaines créatures. Après, tu peux les monter. T'en fais des chevaux, par exemple, un cheval. J'avais un arc. J'ai eu un truc qui était plutôt cool, j'aime bien, où tu tends des pièges. T'as pas mal de pièges, en fait, où tu peux... mettre des pics au sol avec tenu par un câble, pac pac, donc tu plantes de part et d'autre, par exemple d'un chemin de ronde, c'est pour ça que c'est important de savoir, de le connaître, et après quand ils vont se prendre les pieds dedans, boum, ça explose, là tu peux aller les attaquer. Donc il y a vraiment ce côté infiltration, ce côté action, ce côté RPG qui vient donc
très varié.
Plus tu tues d'ennemis, plus tu gagnes de l'XP, plus elle est forte, t'as un arbre de compétences qui te permet d'avoir des skills de plus en plus étoffés, tu peux faire beaucoup de crafting, les éléments de, par exemple ces tenues. Bah, en fonction que tu les fais évoluer ou tu peux aller acheter des trucs, tu les vois tout de suite sur toi. Moi j'adore ça.
Oui,
moi les jeux
où
tu te changes et ça se voit pas, je comprends plus en 2017. Là bah tu l'as fait changer assez classe d'ailleurs. Elle a des petites couronnes, des petits diadèmes.
Et l'arbre de compétences, il est dense.
C'est pas FF10 quoi, ou FF15, mais ouais, c'est un arbre de compétences très correct pour ce genre de jeu. De ce j'ai pu voir en tout cas.
Mais au vu de tout ce que tu nous dis là depuis tout à l'heure, ça a l'air d'être vraiment le gros poids lourd de cette année.
Ouais.
De ce début d'année en tout cas, parce que l'année risque d'être riche. Mais franchement, pour l'instant, S'ils ont réglé ces petits problèmes de framerate qu'on a vu à un endroit, mais qui étaient quand même bien costauds, hein, tout le reste était assez remarquable. Ouais.
Ouais,
après, moi, j'attends aussi la qualité d'écriture, tu vois, l'histoire, est-ce qu'elle doit te porter.
Ouais.
Est-ce que les quêtes, celles que j'ai faites, était correcte, tu vois, mais elle faisait pas FedEx, mais c'était pas non plus la folie furieuse. Mais est-ce que on s'habitue entre guillemets à la beauté de cet univers et après on se dit un peu oui bon, parce que là vraiment moi en 4 heures j'étais je suis resté sous le charme parce que c'est vraiment très très grand. Je sais pas Poufi si t'as les images où on voit la map. Tu les as pas.
Eh bien,
vous irez dans mes impressions, elles sont toujours sur Gameblog. On a un passage où on vous montre la map, parce que c'est des captures que j'ai pu faire. Vous avez dans ces impressions, vous avez 25 minutes de gameplay que j'ai saisi moi lors de cet événement. Donc c'est du gameplay inédit. En tout, et Johnny Watt ne verra jamais.
Mais non, mais je t'assure qu'il fait du gameplay.
Car il est mort.
Il fait des captures parfois.
Et vraiment, à un moment, bah, je dézoome et vous allez voir en gros la taille de la map, qui est en plus un rendu que je trouve super beau. On est loin de la map d'FF15, qui est cette espèce de JPEG dégueulasse. Là, il y a un effet 3D, en fait, quand tu te déplaces, elle est en relief sous toi, en fait. Donc, c'est très classe. Et en gros, au début, bah, moi, j'ai joué, j'étais dans une zone qui s'appelle, je crois, que je me rappelle... les crocs de la nature ou je sais pas quoi, parce que énormément de références à la nature, à la mère nature, etc. Puisque Aloy est son père adoptif, puisque l'un des mystères c'est qui est sa mère, est-ce qu'elle a une mère, qui, enfin bon bref. Et ce sont des parias, hein. Ils sont vraiment rejetés, et puis tu le sens bien, hein. Tu vas dans les villages, personne veut te parler. Hein. Genre non, je peux pas te parler, j'ai pas le droit de te parler, non, casse-toi. Machin.
Mais ça c'est génial, elle est vraiment, je trouve que c'est.
Et du coup, elle
ne
vit pas bien,
hein.
C'est une fille, je dirais pas rebelle, mais je veux dire, c'est normal qu'à un moment tu te sens un peu. Enfin, on te traite comme ça, t'as un peu la rage, quoi, puis t'as envie de te dire, mais pourquoi ? Enfin, moi, j'ai rien demandé à personne. Donc elle a son caractère.
L'univers a l'air génial, quoi. Ça a l'air
parce
dense.
Parce que donc cette zone-là, qui m'avait déjà paru quand même bien vaste, j'ai commencé à dézoomer, j'ai fait ah ouais, d'accord. Waouh. Oh, oh. Et là, c'est pas, en tout cas de ce que j'ai fait, c'est pas, il y a pas de chargement, c'est tout en streaming fluide. C'est-à-dire vraiment là, tu te balades et là, tu vas où tu veux. Hein. Il y a des petits chemins évidemment, mais alors tu peux y aller, tu peux escalader un peu. Pas trop, enfin des zones où, qui sont un peu délimitées. J'ai pas eu l'impression que c'était la grande force du titre, ça, par exemple, mais ça marche. Et puis t'as vraiment la nature avec le soleil qui se couche, la brume, l'humidité, l'orage, il fait chaud, enfin tu sens vraiment ça. Et je sais pas, mais regardez un peu la densité de végétation, tout le temps, en tout cas dans ces zones-là, fait que t'es vraiment complètement immergé dans ce monde. Et non, pour l'instant, moi j'ai trouvé ça remarquable. Je te dis, à part ce truc un peu champ contre champ, à part les interrogations, mais qui sont d'ordre, bah, pour l'instant en 4 heures, je sais pas, mais sur la qualité de l'histoire, de son écriture.
En tout cas, la qualité des visages pendant les cinématiques est assez impressionnante.
C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est
franchement,
super beau.
Pour l'instant, honnêtement, plusieurs fois, je me suis dit, tu sais, il y a des jeux dans une génération de machines où tu sens qu'il y a un POC, là il y a un gap. Parce qu'on est quand même vraiment pas très loin de la qualité visuelle d'Uncharted 4, sauf que c'est un open world.
Ouais.
Très
ça.
Très riche,
c'est ça.
Et très
c'est
dense.
Pas la même chose.
Donc les musiques sont super classe, elles passent du symphonique au tribal, ou un peu électro, à la Metal Gear, avec musique qui change quand tu te fais voir, qui s'adapte en temps réel, musique interactive, etc., dynamique. Pour l'instant...
Ça sent le sans faute, j'ai l'impression, à écouter ce que
tu me dis. En tout cas pour moi, c'est potentiellement là vraiment le game changer pour Guerrilla, quoi. Ça peut les satelliser dans une autre galaxie, quoi. C'est-à-dire Killzone, pour moi, c'est des jeux qui étaient toujours techniquement plutôt bien finis et tout, mais moi l'univers me séduisait pas, puis c'était vraiment des jeux un peu lourds dans le sens un peu tank, genre très guerrier, très sombre. Ça s'adresse quand même à un public éminemment respectable, et je comprends très bien, mais enfin, je pense que là c'est le jeu qui peut être le multi-million seller de Guerrilla comme jamais, toucher un public extrêmement large. Ça va sortir quasiment en même temps que Zelda, c'est quasiment le même genre de jeu, hein, action aventure RPG. C'est donc deux jeux référence pour chacune des machines.
Ils ont pas les mêmes textures.
Non, c'est certain.
C'est pas gentil.
Mais bon, pour l'instant, je suis sorti du truc. J'avais certains de mes confrères de Canal+, de jeuxvideo.com et de Jeux Vidéo Magazine, on en parlait. On se regardait là, on faisait putain, là quand même, c'est vraiment haut niveau. Hein.
Ça sent la tarte.
Ouais.
Et c'est pour le début d'année de ouf. Hein.
1er mars, 2017 sur PS4.
Et pour le moment, je trouve que... souvent, on reproche aux jeux vidéo de te montrer des trailers longtemps en avance et puis t'es downgrade, t'es déçu, t'es machin. Là, pour l'instant, c'est vraiment la promesse initiale bah, dans tes mains, quoi. Le côté tu cloues l'ennemi là, tchac, en lui mettant les trucs, en le mettant au sol, en lui arrachant les parties,
ça, c'est
de
rassurant.
Machin, bah, c'est vraiment ça, quoi. Et tu peux le faire et tu le fais, et surtout je dirais que contrairement à Assassin's Creed par exemple, où j'ai toujours eu beaucoup de mal à reproduire les trailers ou ce qu'on me montrait, ou parfois oui mais parfois il va à côté, ou ah merde machin, là à l'œil, je l'avais vraiment en main et je faisais ce que je voulais, quoi.
Si je répondais aux doigts à l'œil, quoi.
C'est super.
C'est pas de moi, hein, je pense.
C'est beau. Donc oui, c'est exactement cela. Et quand tu perds, bah c'est punitif. Hein. Enfin c'est, enfin punitif, je sais pas si c'est bon terme, mais c'est dur. C'est pas, c'est pas jeu casu, quoi.
Ouais, ouais. Hein,
c'est pas Uncharted, tu sautes complètement à côté de la corniche que tu devais attraper et puis il la rattrape quand
ouais,
même.
C'est un peu vrai.
Alors, c'est pas aussi permissif, quoi.
Alors le truc, c'est que pour l'instant, de ce que j'ai joué, l'aspect plateforme est vraiment pas prédominant.
D'accord.
J'en ai eu très peu, quoi. J'ai eu deux petites, trois escalades, mais qui étaient pas, tu sais, d'escalade timée ou du non, pas du tout. C'était juste parce qu'il y avait un personnage qui était sur une montagne, qu'il fallait que j'aille le voir et machin. J'en ai pas eu trop. Plateforme, j'en ai pas eu, enfin, à part monter sur des petits câbles et des bidules, j'en ai pas eu beaucoup. Non, c'est plutôt tu marches, tu cours, tu chevauches.
Je crois que t'allais continuer. Alors du combat, bah, j'en ai pas eu beaucoup
c'est
non
ça.
Plus. Attends,
en fait,
du RPG,
c'est...
bah non.
Ouais.
Crafting, j'ai quasiment rien vu.
Non, c'est plus, c'est vraiment action, action avec une belle composante RPG et une composante
l'aventure,
émerveillement. Ouais, t'as un appel de l'aventure qui est assez fort.
Tu parles d'appel de l'aventure et tu as parlé juste avant de Downgrade. Ça permet de faire une petite transition, je pense, vers le jeu dont on va parler pour conclure ce podcast, puisque c'est Ghost Recon Wildlands. Downgrade ou pas downgrade, petite Carole, par rapport à...
Écoute, moi, j'y ai joué
sur PC.
À
ce qu'on a découvert
PC.
Il y a 2 ans, je crois.
Alors, écoute, j'y ai joué sur PC, donc lors de ma première session de Endzone, dont je vous ai livré mes impressions, qui sont disponibles sur Gameblog, si vous voulez aller lire.
Et là, on est sur la bêta, maintenant,
donc là, on est sur la
jours.
Bêta fermée, donc qui était disponible jusqu'à aujourd'hui midi, donc je pense que là, c'est terminé. Donc, j'y ai joué sur PC et sur PS4. Évidemment, c'est plus beau sur PC, mais c'est déjà...
C'est beaucoup plus beau.
C'est plus beau. C'est plus beau. C'est sensiblement plus beau, comme tous les jeux, j'ai envie de dire. Mais c'est déjà très beau sur PS4.
Sur PC,
d'ailleurs,
c'est ce qu'on avait vu à la base ou...
J'ai pas vu de downgrade. Hein. Ouais, j'ai pas noté de downgrade. Il y a rien de notable, en tout cas. J'ai
mais
pas été déçu du tout.
Je crois qu'on a
visuellement.
Quelqu'un ici en régie qui a pu y jouer, je crois, en 4K avec sa 1080 de,
ah oui, t'as joué,
de cinglé
aussi,
qui peut nous confirmer que c'est plutôt correct.
Ah ouais,
voilà,
ouais.
Il hoche la tête, donc je pense que c'est bon. Tu pourrais, faudrait que tu hoches la tête de la caméra aussi quand c'est comme ça pour les premiers.
Voilà.
Il faut la confirmation Poufy.
Ouais,
toujours. Voilà, bah, tu vois, il confirme.
Avec
vraiment,
ses yeux 4K.
J'ai pas été déçu en tout cas quand j'ai découvert le jeu sur PC et même sur PS4. Julien l'a vu, hein, j'ai joué un petit peu ce week-end et on a fait un live toujours sur Gameblog. C'est vraiment joli. Et là, je rejoins un peu ce que disait Julien, concernant Horizon Zero Dawn, même si c'est pas du tout le même type de jeu, mais on est quand même dans un monde ouvert. Et là, pareil, on a un gigantisme assez incroyable puisque dans Ghost Recon Wildland, on pourra visiter pas moins quand même de 21 régions avec 11 écosystèmes. Là, on
donc
a
c'est
pu...
où c'est en Bolivie, c'est
ça?
C'est
en Bolivie. Là, on a pu visiter une seule de ces régions et c'est déjà hyper grand. C'est Ituaca, ouais, il me semble. Vous me corrigerez si je me trompe. Huitauca. Donc une des régions de la Bolivie qui est très, très verdoyante, très très sauvage, très jungle. Et donc tu peux te balader très jungle, j'aime bien ce mot, jungle. Et donc tu peux te balader n'importe où, escalader, passer, prendre tout un tas de véhicules. Il y en a quand même 60 de disponibles dans ce Ghost Recon, des voitures, des
comment
motos
ils
de toutes sortes.
La trottinette, parce qu'une fois que t'as fait le camion, une fois que t'as fait la voiture, la Jeep,
tu as différents types de voitures.
C'est
quand je te dis des voitures,
comprenant les
voilà,
différentes
des camionnettes, des
quoi.
Jeeps, des tanks, des voitures
classiques,
des motos, des planeurs.
Des motos à une roue, à trois segways,
des hélicoptères. Enfin, en tout cas, tu peux te balader de la manière dont tu as envie, visiter les airs, visiter la terre. Et c'est vraiment gigantesque. Moi, c'est ce qui m'a frappé, en fait, c'est la sensation de liberté. Sachant qu'en plus, on aura la possibilité de visiter toutes les régions d'un seul coup. C'est pas du tout scripté. Donc, même que tu joues en solo ou en coop, hein, puisque on sent que le jeu va tirer sa force de la coop.
Jusqu'à 4 joueurs, c'est ça?
Jusqu'à 4 joueurs, mm-hmm. absolument. Mais même en solo, je veux dire, j'ai joué un petit peu en solo, un petit peu en coop, notamment ce week-end. J'ai joué 4 bonnes heures hein, lors de ma session de Endzone. Et je veux dire, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Il y a tout un tas de quêtes annexes qui sont
Est-ce que c'est parce que tu es une habituée des jeux Ubi ? Et est-ce que le fait que... Alors j'imagine le déroulement, je n'ai pas encore suivi hein, le jeu. Mais j'imagine que tu vas à un endroit, tu découvres du coup ce qui se passe dans toute la région avec toutes les quêtes possibles. Et imaginable.
Alors, du tout, pour l'instant.
C'est pas du tout comme Far Cry ou Assassin's Creed. Voilà.
Alors, il y a du Far Cry. Moi, je trouve qu'il y a notamment Far Cry 3, pardon, mm-hmm. pour l'environnement, le côté sauvage, un petit peu exotique, latina. Mm-hmm. Mais il y a aussi du The Division, il y a du Just Cause aussi, j'ai trouvé le côté un petit peu entre guillemets what the fuck. Il y a du GTA. D'ailleurs, je trouve que la conduite.
C'est quoi le côté what the fuck ?
Bah, le côté, tu fais un peu n'importe quoi, tu montes dans un hélicoptère, ça pète de partout, tu sautes en parachute, puisque t'as un arbre de compétences hein, que tu vas pouvoir améliorer au fur et à mesure, tu vas récolter des ressources sur le terrain.
Mais ça reste sérieux quoi.
Ça reste sérieux puisque tu dois démanteler un cartel quand même. Donc c'est quand même une histoire sérieuse avec 26 boss, 26 boss de ce cartel jusqu'à arriver au final boss qui est El Sueño, hein, qui est le gros caïd.
El Sueño, c'est-à-dire le rêve.
El Sueño, peut-être
bizarre.
Je te fais totalement confiance.
Je parle espagnol.
Qui est justement un grand rêveur et que j'ai pu découvrir dans une cinématique, toujours lors de la session de Endzone. Et voilà, en tout cas, c'est moi je me suis pas ennuyée. Tu vas donc pour répondre à ta question, Plumeau. Tu as effectivement des missions.
Ah, il y a des tracteurs.
Tu dois
aussi.
Les faire. Alors, tu vois là, il y a des tracteurs même. Tu peux extraire tu peux extraire des prisonniers. Tu peux aller défendre des postes de radio, désactiver des antennes de télécommunication dans un temps imparti, aller chercher des informations, aller pirater des ordinateurs, t'incruster dans des camps sous haute surveillance où tu dois par exemple tuer plusieurs instructeurs. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez varié. Après, il n'y a rien de fou. Attention, hein, je suis pas en train de dire que ça va révolutionner. Le genre, ça reste classique, mais j'ai trouvé que le mélange Far Cry, Just Cause, The Division, on sent la patte Ubisoft, bien sûr, hein, c'est très Ubisoftien, mais j'ai trouvé que le mélange était vraiment cool parce qu'on trouvait une liberté vraiment incroyable déjà dans l'univers qui est gigantesque. C'est beau. Vraiment, j'adore l'ambiance. Pareil que tout comme dans Horizon, t'as les moments où tu vas voir l'orage, la pluie, la nuit.
Je sens plus assez du soleil.
Bah en fait, moi j'ai la même interrogation que Julo. Julo a dû te poser la question il y a pas très longtemps. Est-ce qu'il a pas quand même un petit déficit de personnalité ce jeu ?
Bah c'est ce qu'on pourrait lui reprocher parce que c'est un mélange un petit peu justement de tous les
jeux, un design générique, ce genre de choses.
Je suis d'accord avec toi. Après,
moi je fais que poser la question, c'est un ressenti. Après,
je suis d'accord que ça va être peut-être difficile. Après, je pense que j'aurais besoin d'y jouer de nombreuses heures et ce sera le cas pour le test. En y jouant 4 heures, c'est difficile de se faire un avis définitif sur le fait de est-ce qu'on va tourner en rond, est-ce qu'il y a une véritable identité, bah,
est-ce que Ubi n'est pas à bout de souffle, surtout dans toutes ces formules, sa formule de base qu'il est en train de réutiliser
c'est un peu péjoratif, mais c'est des équipes assez incroyable, moi je trouve qu'en termes de talent c'est remarquable, qui savent créer des mondes gigantesques, crédibles, riches, etc. Mais est-ce que ça en fait des jeux ? J'ai l'impression que maintenant ils créent vraiment des bacs à sable, et en gros vas-y éclate-toi, mais que comme c'est un peu toujours pareil, vas-y éclate-toi, donc en gros c'est la skin Bolivie, c'est la skin New York, c'est la skin San Francisco, est-ce que ça en fait des jeux ?
On peut dire...
Je me fais un peu l'avocat du diable.
Non mais t'as raison, on peut dire voilà, on prend toujours les mêmes et on recommence dans un décor différent.
Mais c'est vrai qu'on fait un peu négatif, mais bon après c'est pas forcément l'idée. Hein.
Honnêtement, de ce que j'attends de ce genre de jeu, moi, ce genre de monde ouvert, un peu à la GTA, un peu à la The Division, etc. Déjà, moi, après c'est très personnel, le décor m'attire plus.
Il y a une histoire.
Il y a une histoire, oui, tu dois démanteler un cartel.
Mais elle est bien, elle est un peu racontée, etc.
Tout à fait, oui, il y a un scénario, c'est raconté. J'ai joué environ 4 heures, donc j'ai pas tout découvert. Non, et puis je suis très vite partie dans la coop aussi pour voir le côté fun, etc. Mais c'est vrai que j'ai peut-être joué une heure en solo. J'ai trouvé ça très correct. Après, tu t'attaches pas au personnage comme tu vas t'attacher à Nathan Drake, etc. Mais je veux dire, il y a y a un vrai scénario. D'accord. Et j'ai trouvé que l'univers était tellement gigantesque, encore une fois on va avoir 21 régions, bah que ça me, c'est un peu l'appel de l'aventure et de la liberté, tout comme pour Horizon, mais... même si c'est pas du tout le même profil, et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà.
Parce que si on écoute les propos de Serge Ascouette, qui est le directeur éditorial de, d'Ubisoft, et qui façonne finalement comment est-ce que Ubi et ses prochains jeux évoluent, dans quelle direction
ils
vont,
plus de scénario,
il dit quand même vraiment les histoires, il s'en fout, qu'il aime pas ça et qu'il veut faire des jeux complètement systémiques et des buzz factory, quoi. C'est-à-dire, je te mets un super décor, machin, je te mets des situations et maintenant il se passe des trucs, quoi.
Bah oui, mais là, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, ou en tout cas, ce sera un mix des deux, mais encore une fois, j'y ai pas encore assez joué, mais ce sera les deux, puisque t'as un vrai scénario, puisque tu dois démanteler ce cartel qui a quand même 26 boss bien distincts, avec toutes les régions auront leur propre organisation.
Oui, ça a l'air très dense, très riche.
Voilà, et il y a le côté voilà coop où tu fais un petit peu ce que tu veux, tu vas enchaîner les quêtes secondaires pour récolter de l'XP, des ressources, etc., pour améliorer ton personnage, développer ses compétences. Par exemple, tu vas avoir un drone que tu vas pouvoir améliorer, tu vas pouvoir améliorer sa portée, puisque tu peux pas, par exemple, quand moi j'ai essayé de me servir du drone pour scanner le terrain et marquer les ennemis en arrivant dans un camp, bon, il pouvait pas aller trop loin, mon drone, il manquait d'énergie, donc j'ai pu l'améliorer. En deuxième partie, de Endzone, ils nous ont tout débloqué, donc j'ai pu utiliser le parachute et tout un tas d'armes de joujoux assez sympathiques. Donc j'ai trouvé ça complet, fun. J'y ai joué avec des collègues journalistes qui étaient aussi assez séduits. Donc on a trouvé ça efficace. Y a pas mal de possibilités. Encore une fois, les quêtes, j'en ai fait plein qui étaient parfois les mêmes, mais parfois souvent différentes. Donc voilà, moi pour l'instant je suis séduite, mais c'est vrai que c'est pas la personnalité de Ghost Recon Wildlands qui m'a le plus émue. Après, ça reste du Ghost Recon, il faut savoir, c'est quand même une grosse licence Ghost Recon.
Oui, puis ça a l'air d'être quand même un shooter tactique intéressant.
Voilà, c'est quand même du Ghost Recon. Après, encore une fois, ça reste classique, tu vas pouvoir donner des ordres à tes ghosts. Et puis tu vas aussi pouvoir donner des ordres aux rebelles, puisque dans cette région on va avoir plusieurs factions, enfin deux factions, Unidad qui est une sorte d'armée d'armée privée, et puis Santa Blanca qui est le cartel donc d'El Sueño, et les rebelles. Donc toi tu vas pouvoir en effectuant des quêtes annexes particulières débloquer les ordres aux rebelles, tu vas avoir une roue d'ordre, donc après ils vont pouvoir venir t'aider, faire diversion, t'envoyer une voiture, etc. Et tu vas aussi pouvoir te servir de la Discord entre Unidad et Santa Blanca pour diviser pour mieux régner, quoi, t'en servir à ton avantage.
C'est un peu The Division 2.
C'est un peu The Division 2, mais dans un autre décor et avec, je trouve, enfin, et avec clairement plus de possibilités. D'où le côté un peu, voilà, un peu. C'est un peu du GTA avec du Far Cry, du The Division. Je trouve que le mélange est cool et ça fonctionne bien. Donc à voir sur la longueur, voir si c'est pas trop répétitif, si tu tournes pas très vite en rond.
Bah on aura la réponse à l'approche du test, oui, puisque le jeu sort quand même le 7 mars
7
prochain
mars.
Sur PS4, Xbox One et PC. Johnny, c'est le genre de jeu qui te branche, ça, ou pas?
Pas vraiment.
J'aime bien cet enthousiasme. Pas du tout.
Ok,
mais
voilà la réponse la plus honnête de la journée.
Non.
Elle est là.
Non, le dernier Ubi que j'ai fait, c'est...
pas celui-là.
Assassin's Creed 2, je crois.
Assassin's Creed 2, qui était quand même un excellent épisode.
C'était bien.
Ça se ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup à ceux d'avant.
Ça ressemble beaucoup à Ubi. Ouais, c'est sûr.
De ce que je vois là, quand même, ça a l'air.
Oui, ça a l'air sympa,
très riche.
Mais.
Oui, puis c'est pas, t'arrives dans une région comme tu me disais tout à l'heure et tu débloques un endroit.
7 mars, regarde.
Il y a plein de choses qui arrivent.
On va t'en sortir.
Non, mais
de toute façon, on va pas vivre.
Rush, Resident Evil,
Zelda, Nier, Ghost Recon, Horizon,
Nier, Nio.
Ouais.
Ouais,
non,
c'est
trop compliqué. Bah,
Mass Effect, là, en tout cas, dans la première Zelda, semaine de mars, on a quand même Zelda,
Horizon,
Ghost Recon
et Nioh.
Non, Nioh, c'est février.
Attends, ça, c'est le 10, pardon.
Ouais.
Ça fait 7-8 jeux là, rien que sur les 3 premiers mois.
Ouais, non, mais c'est n'importe quoi.
Ça va être beau.
C'est de la folie.
Ça va être affreux. Bon, bah écoute, en tout cas, on surveillera avec attention quand même ce Wildlands qui est quand même. Fait à Paris,
c'est prometteur.
On est quand
quoi.
Même, faut le dire quand même.
On a peut-être donné français. L'impression, mais parce qu'on se fait un peu l'avocat du diable et machin. Mais
forcément, mais il allait se faire taper dessus.
Ça a l'air quand même assez prometteur.
Oui, moi en tout cas pour l'instant je me suis amusée. Alors après à vous aussi de nous donner votre avis. Hein,
évidemment, parce que vous avez pu jouer à la bêta.
Vous avez pu jouer à la bêta fermée peut-être.
Peut-être même avec Carole, ça se trouve.
Peut-être même, oui, Kirby qui a pu jouer avec moi et avec
T'as
Steve.
Joué Kirby
notamment mon petit Kirby, ouais, mais il était
pas. Ah,
rose,
pas le vrai, d'accord, était, je crois que c'était Kirby,
était,
la boule rose.
Ouais. Vert. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a la sensation qui ressort de ce Ghost Recon Wildland et qui m'a séduite, c'est le sentiment de liberté, de pouvoir faire ce que tu veux, pas être obligé d'aller. Enfin, c'est un vrai monde ouvert et avec la possibilité de faire n'importe quelle région dans le sens que tu veux, pas être obligé de débloquer des trucs ou de suivre un chemin particulier dans l'histoire. Tu fais ce que tu veux. Et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant.
Ben moi aussi j'ai envie de faire ce que je veux là, et surtout je regarde l'heure tourner et je me dis que c'est le moment de clore ce podcast. C'est ainsi que va l'actualité de cette semaine. Merci évidemment Johnny One, merci Carole,
merci
Julien, merci Poufy à la sono comme d'habitude. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, évidemment, comme d'habitude, juste en dessous là de
les commentaires, lâchez les coms
de ce podcast, lâchez les coms exactement, laissez des pouces verts. Bah, non, c'est rouge ou vert ? Non, c'est
là effectivement certains ont pu jouer.
C'est des petits cœurs.
On peut jouer à Ghost Recon, certains ont pu jouer à Nioh, Horizon c'est moins clair, sauf
si vous étiez avec Julien à
certains salons. Mais donc voilà, vous avez peut-être déjà des avis sur la question, n'hésitez pas à les partager.
Puis vous connaissez peut-être Donald Trump aussi, puis vous aimez bien les consoles Nintendo, etc. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, vous pouvez le commenter, vous pouvez nous en parler avec nous, même en parler avec nous, pardon, et puis exprimer votre point de vue avec respect et tout ça. Hein, n'est-ce pas ?
Respect !
Exactement. Et moi j'en profite pour faire un petit coucou à quelqu'un que j'ai croisé il y a pas très longtemps, un lecteur qui m'a accueilli avec des fleurs à l'aéroport en revenant d'un voyage de presse. Zahir, salut à toi, je sais que tu
c'est
écoutes. Non, non, je te promets. En fait, non, il attendait sa chérie, évidemment. Mais c'était très rigolo.
Il venait de franchir un cap dans le respect total.
Il avait des fleurs à la main.
Là, le truc, il vient
c'est mignon.
Non, je voulais juste le saluer parce qu'il me disait qu'il écoutait tous les podcasts.
On vous aime même si vous faites pas ça.
Donc tu me prouveras que tu as écouté ce podcast aussi grâce à cette dédicace. Voilà, bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine.
Bravo Zahir.
D'ici là, portez-vous bien et surtout, comme d'habitude,
jouez bien.
Jouez bien.
Ciao. Gros bisous, on vous aime.
Ciao.
Ciao. Vive la passion du jeu vidéo.